Messieurs, dames, ravis de vous retrouver en direct sur le studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français du 10 mai 2019, au micro Diallo Mariama Kenda. Voici les titres. Plusieurs activités économiques impactées par les longues coupures d'électricité à Niamey. Quelques témoignages d'acteurs économiques dans ce journal. Les prières nocturnes du Ramadan se déroulent bien à Diffa malgré le couvre-feu fixé à 22h pour les piétons. Témoignage dans un instant. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, nous allons faire un saut en arrière pour parler de l'installation des pasteurs Peul à Gaya et l'entente vécue avec le peuple autochtone, les Tchanga. Bonsoir, bienvenue à tous. Les longues coupures d'électricité constatées actuellement à Niamey affectent considérablement les activités économiques des habitants, mais aussi ont un impact certain sur leur bien-être. Notre reporter Asmana China est allé à la rencontre de plusieurs personnes qui exercent diverses activités. Voici son reportage.
Bassar est un jeune gérant d'une entreprise de copie service au quartier Yantala. Son chiffre d'affaires a chuté à cause des coupures d'électricité que la ville connaît actuellement. Certains de ces appareils sont aussi endommagés.
Vraiment, ça ne va pas. Quelqu'un au moins qui peut descendre avec un petit 10 000, 15 000 qui descend avec 3 500, vraiment ça a rabaissé tout. Pour les appareils, même la photocopieuse, il n'y a pas l'ondulé. L'ondulé là, c'est gâté. Ma deuxième machine, 10 jours là, ça s'est arrêté.
Un peu plus loin, Mademoiselle Araki gère une alimentation générale. Il n'y a pas d'électricité dans sa boutique depuis hier. Certains produits sont gâtés, impliquant des pertes.
Presque tous nos produits laitiers sont avariés à cause de ces coupures d'électricité. Nous avons dû verser une grande quantité. C'est une grande perte pour nous et ces pertes s'estiment souvent à environ 30 000 francs CFA.
Le jeune Ousmane est lui stagiaire dans un service de la place. Il n'arrive plus à téléphoner car la batterie de son mobile est déchargée depuis 48 heures.
Personnellement, j'ai fait 48 heures sans batterie. Il y a aussi des appels qu'on devrait effectuer au village, aux parents. Donc, le monde d'aujourd'hui, tout s'est fait sur les appareils. Donc, on ne peut pas avoir nos proches sans téléphone portable. Et surtout, on ne peut même pas faire des recherches personnelles sur Internet.
Abattus, tous ces consommateurs n'ont qu'un et même souhait, le retour rapide de l'électricité.
Les coupures exceptionnelles d'électricité enregistrées à Niamey freinent d'innombrables activités de la vie. Des vulganisateurs ou réparateurs de pneus rencontrés ce matin par notre reporter disent ne plus disposer de quoi subvenir aux besoins quotidiens de leur famille.
Nous utilisons beaucoup l'électricité qui nous fait vivre. C'est avec l'électricité que nous montons et gonflons les pneus. S'il n'y a pas d'électricité, nous sommes totalement bloqués. Nous n'aurons même pas 500 francs pour le repas. Qu'ils nous fassent diligence, sinon nous ne pourrons que nous nourrir à crédit chez la vendeuse habituelle.
Tous les jours, il n'y a pas de courant. Tout ça, là, c'est problème. Tu vas utiliser, tu n'as pas utilisé, tu vas aller payer la facture. Donc tout ça, c'est problème. Donc quand on vend les pneus, si quelqu'un est venu, il va payer les pneus. S'il n'y a pas les courants, là, il va décaire, il va aller devant. Depuis les semaines, là même, on ne travaille pas. Ça ne marche pas. Si Nigelay est là, il va faire tout possible. S'il y a un problème de courant, là, il va faire tout possible pour arranger ça. Si ce n'est pas ça, ça ne va pas.
Propos recueillis par Moutari Mahamadou. Les forces spéciales françaises ont libéré hier nuit 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne lors d'une intervention complexe dans le nord du Burkina Faso, ont annoncé les autorités françaises, rapporte une dépêche de l'AFP. Les 2 Français ont été enlevés le 1er mai dernier lors d'un séjour touristique au Bénin. Au cours de leur libération, 2 militaires des forces spéciales françaises ont trouvé la mort au combat, précise le communiqué de l'Élysée exploité par l'APF. Le couvre-feu à partir de 22h pour les piétons à Diffa n'entrave en rien les prières nocturnes du Ramadan. Les croyants prient sans crainte selon Seydou Issoufou, un habitant de Diffa au micro de notre correspondant Lawan Boukara.
C'est vrai, la région de Diffa connaît une crise depuis aujourd'hui plus de 4 ans, mais cela n'empêche les habitants de la région sont aujourd'hui vaccinés de certaines circonstances. Quand même, ils arrivent à faire leur programme de vie, comme on dit. Par rapport aux prières nocturnes, on les prie paisiblement parce que jusque-là, on n'a pas entendu un petit problème lié à un attroupement pour la prière.
Donc, il n'y a pas de peur au fond des gens?
Pour l'instant, non. Les gens sont tranquilles. Tu vois, au niveau des mosquées, même, il n'y a pas même de vigile pour dire que les gens sont un peu rassurés. Et on pense que ceux qui sont de loin apprécient la situation plus compliquée que ceux qui sont au niveau de la région.
Une vingtaine de boutiques brûlées dans un incendie hier soir au marché Sonitan de Maradi. Le feu est parti de la boutique d'un vulganisateur contenant de l'essence et du gasoil. Ce matin, le président de la délégation spéciale de Maradi a rencontré les commerçants pour chercher des voies afin d'éviter un autre sinistre. Le président Lawali Issa au micro de Mohamed Mamane.
C'était hier aux environs de 18h30, mais très malheureusement, l'incendie, on n'a pas pu le maîtriser jusqu'aux environs de 23h30. Vous n'êtes pas seul de savoir qu'il y a la Sonidep qui est juste à côté de ces parcs. Et selon les normes réglementaires de la Sonidep, on ne doit pas y avoir un logement ou une boutique à côté de la Sonidep. Il y a un rayon de 500 mètres qu'on doit respecter. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces boutiques même sont collées à la Sonidep. Et aujourd'hui, le danger pour l'ensemble de la population de la ville de Maradi, ce réservoir contenait aujourd'hui plus de 2 millions de litres. Et l'incident qui s'est passé à Niamey le dimanche passé, la citerne contenait uniquement 50 000 litres. Nous avons cette lourde responsabilité de prendre toutes les mesures idoines pour vraiment préserver l'ensemble de la population de la ville de Maradi. Nous sommes là en train de discuter avec eux pour qu'on leur donne un délai. Ils vont dégager.
Mercredi, la France, via sa base aérienne Barkhane de Niamey, a fait don de 510 kg de médicaments spécialisés au ministère nigérien de la Santé publique. Ce don est destiné aux soins des grands brûlés de l'explosion dimanche du camion citerne d'essence. C'est ce que rapporte le site web de l'ambassade de France au Niger. De son côté, par un tweet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce avoir donné au Niger du matériel et des médicaments d'une valeur de 30 millions de francs CFA pour prendre en charge ces personnes brûlées. Le calendrier vaccinal, les consultations prénatales et postnatales, la planification familiale et l'hygiène au menu d'une formation à Terra la semaine dernière destinée au relais communautaire. Notre correspondant a interrogé une participante sur ce qu'elle a appris et le changement que cela peut apporter dans sa localité, Zali Kanouhou, du village de Zindigori, au micro de Bukari Kanda.
Concernant la vaccination des enfants, il n'est pas dit qu'elle va guérir automatiquement une maladie en cours. Non, c'est pour contrecarrer les éventuelles maladies. Dès la naissance du bébé, on lui fait la vaccination contre la tuberculose, puis celle contre la poliomyélite. Et toutes ces vaccinations doivent se succéder. Quant à l'espacement des naissances, nous ne demandons à aucune femme d'arrêter de faire des enfants, mais de laisser le bébé allaiter pendant 24 mois avant une prochaine grossesse. Les femmes enceintes, elles doivent comprendre que l'on travaille a des conséquences sur leur santé et celle du bébé. De nos jours, les gens doivent comprendre que la santé est capitale.
En prélude aux prochaines consultations locales au Togo, les Togolais de la diaspora auront l'opportunité de s'inscrire dans les représentations diplomatiques de leur pays de résidence. Ceux vivant au Niger, qui n'ont ni ambassade ni consulat à Niamey, comptent s'organiser pour profiter de ce droit civique. Les explications de Kombaté Tineke, président de la communauté des ressortissants togolais au Niger, interrogé par Gungu Maman Dantani.
On a eu l'ouverture d'une ambassade du Togo au Niger avec résidence à Abuja. L'ambassadeur va incessamment présenter ses lettres de créance. Il va nous donner les fiches pour faire enregistrer les Togolais aussi au Niger. Puisque même dans la feuille de route des Togolais de l'extérieur du ministère des Affaires étrangères du Togo, c'est prévu. On attend que l'ambassadeur nous donne copie et on va faire enregistrer tous les Togolais résidant au Niger.
Vous pouvez nous dire à peu près le nom nombre de Togolais qui résident au Niger?
On avait des vieux chiffres qui parlaient de 30 000 Togolais au Niger. Avec cette histoire d'élection, on va essayer de reprendre les recensements pour voir à peu près combien de Togolais on est au Niger.
Comment vous allez faire pour pouvoir sensibiliser les Togolais qui sont au Niger pour qu'ils puissent se faire inscrire?
On a des sections à Niamey et des sous-sections dans les régions. On passe souvent par ces cellules pour informer. On utilise aussi les médias, pas des communiqués, les églises, les mosquées, pour passer des informations relatives aux Togolais résidents au Niger.
Du sport à présent, la deuxième édition de la Coupe UFOA Dames Zone B de football se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Hier, l'équipe nationale du Niger, les Gazelles, ont subi une lourde défaite face aux Aigles du Mali, 12 buts à 0.
Studio Kalangu
à Gaïa
sur la radio Fara
90.3 MHz. À Tessawa
sur la radio Termamoa
97.5 MHz. À Brinconi
sur la radio Nia
97.5 MHz. À Belleyara
sur la radio Dalol
96 MHz.
Studio Kalangu.
18h passées de 10 minutes, la partie magazine de ce journal. À Gaïa, dans la région de Dosso, les pasteurs Peul et les Tchanga, peuple autochtone, cohabitent en harmonie. À l'origine, les premiers habitants de cette ville, avant l'arrivée des colons, sont les Tchanga animistes qui seront au fil du temps rejoints par d'autres communautés venues d'ailleurs, à l'exemple de ces Peul pasteurs à la recherche du pâturage. C'est ce qu'explique Oumaru Sambo, le 32e chef de groupement Peul de Gaïa, dans ce entretien accordé à Gungu Maman Dantani. Voici son reportage.
À Gaïa, l'histoire raconte que les éleveurs Peul sont arrivés du Nigeria à la recherche du pâturage, précisément sur l'île de Gaïa Baru, une zone contrôlée par les Tchanga, peuple autochtone du Dendi, dans la région de Dosso. Oumaru Sambo, 32e chef de groupement Peul de Gaïa, raconte.
En effet,
comme cela nous a été relaté par nos anciens, les Peul pasteurs de Gaïa sont venus du Nigeria. Ils venaient faire prêtre leur bétail sur l'île de Gaïa, que les autochtones d'Indi appellent Gaïa Baru. Donc, les Peuls venaient pour le pâturage et retournaient. Un jour, pendant qu'ils étaient venus pour le pâturage de leur bétail, puis ils se sont installés. Après leur installation, c'était au temps des colons. Alors, les colons leur ont attribué un site qui se trouve derrière ces collines pour qu'ils restent sur place afin de pâturer leurs animaux, y compris ceux appartenant aux colons, car les colons avaient des bétails qu'ils appelaient Moudjedji. Et ce sont ces Moudjedji que les Peuls traient. Ils apportaient du lait et du fromage aux colons. Ensuite, chaque semaine, un veau est immolé pour leur consommation. Au fil du temps, un jour, les colons ont dit à notre arrière-grand-père du nom de Baba Isé qu'ils ont l'intention de le nommer comme chef groupement Peul. Alors, ils l'ont amené à Dakar. C'est à Dakar qu'ils l'ont intronisé chef de groupement Peul de Gaïa. Ensuite, ils l'ont ramené ici à Gaïa. Et voilà comment le groupement Peul de Gaïa a été instauré.
Maintenant, comment cohabitez-vous avec les autres population de Gaïa?
Vraiment, nous vivons en parfaite harmonie avec les autochtones de la ville. Auparavant, certes, il y avait quelques difficultés parce qu'il y avait des conflits entre pasteurs et agriculteurs. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Nous vivons vraiment en symbiose.
Alors, maintenant, quel appel as-tu à lancer par rapport à votre vie ici à Gaïa?
L'appel que je lance, c'est de demander aux deux communautés de cultiver la tolérance, la patience. Car la patience, c'est le socle de la vie en communauté. S'il n'y a pas de tolérance entre les communautés, la cohabitation aura toujours un coup dur. Mais ce qui est évident aujourd'hui, il y a cette observation de tolérance. Car voyez-vous, surtout par notre naïveté, ou du moins la naïveté de nos enfants, nous les provoquons souvent en faisant des dégâts dans leur champ. Mais quand ils nous demandent, effectivement, nous reconnaissons les faits et on trouve un terrain d'entente pour solutionner le problème. Donc, par ce fait, moi, je peux dire que la cohabitation reste toujours harmonieuse entre nous.
Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le studio Kalangu informe les auditeurs des radios partenaires que les interruptions constatées lors des diffusions des programmes de studio Kalangu sont dues à des perturbations du signal chez le fournisseur depuis l'Europe. À présent, le forum de la presse a présenté par Mokhtar Hamadou.
Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.